Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Jupiter est la planète de tous les superlatifs. C'est la plus grande planète par sa masse et par sa taille. Elle est 10 fois plus grande que la Terre. D'un point de vue de sa masse, elle est 2,5 fois plus massive que toutes les autres planètes du système solaire réunies. Alors Jupiter, c'est une géante gazeuse, comme Saturne. Ça veut dire qu'elle est constituée principalement d'hydrogène, mais aussi d'hélium, pour un quart de sa masse. Elle possède probablement un noyau rocheux composé d'éléments plus lourds. Mais comme pour les autres planètes géantes, Jupiter n'a pas de surface solide bien définie. C'est plutôt un gros manteau d'hydrogène métallique. L'hydrogène qui est présent sous forme de gaz dans les couches très supérieures de la planète se trouve considérablement comprimé quand on s'enfonce vers son centre. La pression arrive à un tel point, jusqu'à 2 millions de bars, que l'hydrogène devient alors un fluide supercritique. Ni tout à fait liquide, ni tout à fait gazeux, mais ayant les propriétés des deux à la fois. On parle alors d'hydrogène métallique. L'atmosphère supérieure est également constituée principalement d'hydrogène et d'hélium et en petites quantités décomposées comme l'ammoniac, le méthane ou l'eau. Son atmosphère extérieure est visiblement séparée en plusieurs bandes de couleurs allant du crème au brun à différentes latitudes. On voit très bien quand on observe Jupiter ces bandes. Elles contiennent aussi des turbulences et des tempêtes dont les vents violents peuvent atteindre jusqu'à 600 km/h le long de leurs frontières. Évidemment, vous connaissez tous la grande tache rouge, cet anticyclone géant d'une taille comparable à la Terre, qui a été observé au moins depuis le XVIIe siècle. La taille et la composition de Jupiter amènent certains à la qualifier de naine brune ou d'étoile ratée. Alors, qu'en est-il ? Je vous propose de revenir un petit peu sur la théorie de la formation des étoiles. Car vous savez que les étoiles ne sont pas éternelles, elles naissent, elles vivent et elles meurent. Pour qu'un objet céleste acquière le nom d'étoile, sa masse doit être suffisante pour que la pression en son cœur entraîne la fusion des noyaux d'hydrogène en hélium et que donc elle puisse émettre de la lumière et briller. Pour cela, il faut une masse à peu près équivalente à 80 fois la masse jovienne, c'est-à-dire la masse de Jupiter. En deçà de cette masse, on parle de naines brunes. Ce sont des objets plus légers que 80 masses jovienne. Les naines brunes ne fusionnent pas l'hydrogène, mais elles fusionnent le deutérium, qui est un isotope de l'hydrogène. Pour mémoire, l'isotope, c'est un atome qui possède le même nombre de protons, alors dans le cas d'hydrogène, c'est un proton, mais qui a également un neutron. L'énergie lumineuse d'une naine brune est quasiment exclusivement tirée de l'énergie potentielle gravitationnelle, contrairement à une étoile en séquence principale qui, elle, tire son énergie des réactions nucléaires. La contraction de la naine brune s'achève lorsque se produit la dégénérescence de la matière. La naine brune a alors un diamètre de l'ordre de celle de la planète Jupiter, tout en étant beaucoup plus lourde. En l'absence d'autres sources d'énergie, la naine brune se refroidit au cours de son existence. Jupiter aussi a produit de la chaleur par contraction de son noyau. Mais si Jupiter avait capturé plus de matière lors de sa formation, c'est-à-dire si le disque d'accrétion primordiale du système solaire avait été plus dense, Jupiter aurait pu devenir une naine brune, voire aurait pu devenir une étoile. Le système solaire aurait donc pu être un système double. Dans ce cas-là, il est assez peu probable que suffisamment de matière soit restée disponible pour former les autres planètes telluriques. Intéressons-nous au système jovien. On connaît 95 satellites naturels de Jupiter. 72 sont numérotés et 57 sont nommés. 4 sont des très grands satellites qui sont connus depuis plusieurs siècles, regroupés sous la dénomination de lune galiléenne, parce qu'ils ont été observés pour la première fois par Galilée en 1610, quand il a pu améliorer sa lunette astronomique. Leur découverte a été publiée dans Sidereus Nuncius en mars 1610. Ils sont alors les premiers satellites naturels découverts en orbite autour d'une autre planète que la Terre. Évidemment, cela a grandement remis en cause le modèle géocentrique défendu par de nombreux astronomes de l'époque. Et ça a aussi prouvé l'existence d'objets célestes invisibles à l'œil nu et donc la nécessité d'avoir des instruments. Si Galilée les nomme initialement Medicea Sidera, en français les étoiles médicéennes, en l'honneur de la maison de Médicis, les noms qui entrent dans la postérité sont choisis par Simon Marius, après une suggestion de Johannes Kepler. Ces dénominations correspondent à des personnages de la mythologie grecque, maîtresse et amant du dieu Zeus, qui donc est Jupiter dans la mythologie romaine. Les plus grands satellites s'appellent Io, une princesse d'Héra et fils d'Inachos, Europe, la fille d'Agénor, Ganymède, les chansons des dieux, autrement dit le Verseau, et Callisto, la nymphe d'Artémis qui est figurée par la Grande Ourse. Le plus grand des satellites, c'est Ganymède, avec ses 5262 km de diamètre. C'est la lune la plus grande et la plus massive de tout le système solaire. Elle dépasse même en taille la planète Mercure. Callisto, juste en dessous, avec ses 4800 km de diamètre, est à peu près aussi grand que Mercure. Io et Europe ont une taille similaire à notre lune. Ils sont plus grands que certaines planètes naines. Mais comme ils tournent eux-mêmes autour d'une planète et pas autour d'une étoile, alors on les appelle des satellites. De la fin du 19e siècle au début des années 50, 8 autres satellites furent découverts. Je vous passe leurs noms, mais ils sont aussi tous liés à la légende de Zeus, comme par exemple Pasiphae. Pendant les années 70, 2 autres satellites furent observés à partir de la Terre, Leda et Thémisto. Alors Thémisto a été perdu pendant un moment, il a été découvert en 75, on l'a perdu puis retrouvé dans les années 2000. Avant l'arrivée des sondes spatiales, dans l'environnement de Jupiter, 13 satellites étaient donc connus. Mais les missions Voyager 1 et 2, qui survolèrent les systèmes joviens en 79, ont permis la découverte de 3 nouvelles lunes, Métis et Thébée en mars 79 par Voyager 1 et Adrasté en juillet 79 par Voyager 2. Après 1999 et avec les progrès dans le domaine des détecteurs, les observations reprennent et ce sont 51 nouveaux satellites qui sont ainsi découverts. La plupart de ces satellites possèdent des orbites éloignées, excentriques, inclinés et rétrogrades. Ils font en moyenne seulement 3 km de diamètre, pour le plus grand atteint seulement 9 km. En fait, on pense que ce sont des corps astéroïdaux ou cométaires qui ont été capturés par la gravitation de Jupiter et peut-être même fragmentés en plusieurs morceaux. Car Jupiter possède plusieurs anneaux planétaires, très fins et composés de particules de poussière qui sont continuellement arrachées à ses satellites lors des micro-impacts de météorites. En fait, il y a beaucoup d'impacts de météorites sur Jupiter, car comme elle est très massive, elle attire beaucoup d'astéroïdes vers elle. Les anneaux de Jupiter sont tellement fins et sombres qu'ils ne furent découverts que quand la sonde Voyager 1 s'approcha de la planète en 79. Pourtant, Jupiter est visible à l'œil nu la nuit et elle est connue depuis l'Antiquité. Pour les Babyloniens, elle représentait le dieu Marduk. Ils utilisèrent les 12 années de l'orbite jovienne le long de l'écliptique pour définir le zodiaque. Les Romains, eux, nommèrent la planète d'après le dieu Jupiter, dérivé du dieu Père. D'ailleurs, le symbole astronomique de Jupiter, c'est la représentation stylisée d'un éclair du dieu. Les Grecs, eux, l'appellent Phaéton, l'ardent. Les tribus nordiques y voyaient Donar, ou Thor. Et savez-vous que Jupiter a laissé des traces dans notre vie quotidienne ? Car le nom jeudi est étymologiquement le jour de Jupiter. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en anglais, Thursday, qui est la traduction de jeudi, fait référence au jour de Thor, qui lui aussi est associé à la planète Jupiter. Revenons aux observations de Jupiter. Un petit peu après la découverte des 4 grands satellites par Galilée, dans les années 1660, Cassini utilise un télescope pour découvrir des taches et des bandes de couleurs sur Jupiter et observer que la planète semblait oblongue. Il fut également capable d'estimer la période de rotation de la planète grâce à ces taches, qui est une des plus rapides du système solaire. En effet, Jupiter tourne sur elle-même en 10 heures seulement, ce qui semble, au vu de sa taille, très très rapide. Mais en fait, c'est anormalement lent selon les scénarios qui expliquent sa formation. Une théorie vient d'ailleurs d'être proposée pour résoudre cette énigme. Comme le jeune Soleil et les autres étoiles, la géante aurait vu sa rotation freinée par les champs magnétiques. Alors, revenons au commencement et à la création du système solaire. La théorie de Kant-Laplace, Kant comme Emmanuel Kant le philosophe et Laplace, l'astronome français du XVIIIe siècle dont je vous ai déjà parlé, suppose que le système solaire a été créé à partir d'un nuage de gaz et de poussière qui s'est effondré à cause de la gravitation. Ce nuage tournait sur lui-même lentement. Mais de même que la rotation d'une patineuse accélère lorsqu'elle approche les bras de son corps à cause de la conservation du mouvement cinétique, en quelque sorte la conservation de la quantité de mouvement circulaire, alors le nuage de gaz lui aussi, en se contractant, a dû accélérer. Il en va de même pour Jupiter. Jupiter a donc été créé par accrétion de petits corps rocheux, et probablement assez rapidement, en quelques millions d'années. Elle a attiré à elle des petits corps rocheux, mais aussi du gaz, principalement de l'hydrogène et d'hélium, qui étaient contenu dans la nébuleuse planétaire préexistante. Jupiter devait donc tourner sur elle-même. En fait, vu sa taille, elle devrait tourner sur elle-même en moins de 3 heures. Ce problème de ralentissement, on le rencontre aussi pour d'autres astres. Et la cause semble être élucidée pour le Soleil et les étoiles, après la découverte de jets de matière dans les jeunes étoiles. Et aussi en faisant intervenir des forces de freinage magnétique, comme l'a proposé dans les années 1940 le prix Nobel de physique Hannes Alfvén. Le disque protoplanétaire initial était en effet suffisamment chaud et proche du Soleil pour que la matière soit ionisée, formant un plasma, qui donc abritait un champ magnétique. Ce champ magnétique aurait agi comme frein. L'éjection de matière le long de jets et aussi par le vent solaire qui aurait emporté au loin une partie du moment cinétique ralentissait ce proto-solaire. Et donc, dans l'analogie de la patineuse, ce transport de matière et du moment cinétique qui l'accompagne est semblable à un mouvement d'extension des bras, ce qui ralentit la patineuse. L'astronome Constantin Bajin vient de proposer une nouvelle variante de ce mécanisme de freinage de Alfvén, mais dans lequel c'est la matière qui s'effondre sur Jupiter pendant sa création qui est expulsée à l'image des jets de matière et forme un disque d'accrétion qui freine la planète. Ce qui pourrait expliquer son temps de rotation. Revenons à nos histoires d'observation de Jupiter. Giovanni Borelli et Jean-Dominique Cassini ont réalisé des éphémérides des lunes galiléennes. La régularité de la rotation des quatre grands satellites galiléens sera utilisée fréquemment dans les siècles suivants, leurs éclipses par la planète elle-même permettant de déterminer l'heure à laquelle était effectuée l'observation. Cette technique sera même utilisée pendant un temps pour déterminer la longitude en mer. Dès les années 1670, on constate que ces événements se produisaient avec 17 minutes de retard lorsque Jupiter se trouvait à l'opposé de la Terre par rapport au Soleil. L'astronome Christenen Römer en déduit que l'observation n'était pas instantanée et effectua en 1676 une première estimation de la vitesse de la lumière. Vous aussi, vous pouvez tenter l'observation des lunes de Jupiter. Vous pouvez profiter d'une opposition, c'est-à-dire quand Jupiter est à l'opposé du Soleil par rapport à nous. Ainsi, elle est visible toute la nuit. C'était le cas l'année dernière, en 2023. Pour observer les quatre lunes galiléennes, une bonne paire de jumelles suffit. Il faut chercher quatre points le long de l'équateur de Jupiter. Si vous avez un instrument assez précis, comme une lunette astronomique, vous pouvez essayer de repérer les bandes équatoriales de la planète, qui sont formées par des nuages, alignés à peu près parallèlement à l'équateur. En fonction de la face que Jupiter nous montre, vous pourrez même voir la grande tache rouge.